Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le très haut, qui nous donne la possibilité en cette année 2012-1433 de l'année islamique de jeûner, de répondre présent parmi tous les musulmans du monde entier qui ont commencé à jeûner soit aujourd'hui comme nous à l'île de la Réunion et la zone Afrique, ou alors qui ont commencé à jeûner depuis hier comme la zone Europe et les pays du Moyen-Orient, entre autres Makkatul Mukarrama et Al-Madina Al-Nabawiya. Nous vous annonçons donc la bonne nouvelle, comme le prophète alayhi salat wa salam une fois avait annoncé la bonne nouvelle aux sahaba lorsque le mois de Ramadan est arrivé. Il avait annoncé aux sahaba que le mois de Ramadan est arrivé, je vous annonce cette bonne nouvelle, et il a qualifié ce mois comme étant Sayyid al-Shuhur, fa marhaban bihi wa ahla, qu'il soit donc le bienvenu. Notre prophète a qualifié le mois de Ramadan comme étant le meilleur des mois. Et nous sommes tous conscients que ce mois est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple fait d'être parmi cette jamaat, parmi ces musulmans qui font la salat ou tarawih ce soir et qui vont demain commencer le premier somme, c'est-à-dire répondre présent parmi toute la umma pendant ce mois de Ramadan, c'est déjà un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète alayhi salat wa salam nous avait dit une fois que si seulement les gens savaient qu'est-ce qu'Allah azza wa jal nous accorde durant ce mois, les gens auraient souhaité que toute l'année fût Ramadan. لَتَمَنَّوْا أَن تَكُونَ السَّنَةُ كُلُّهَا رَمَضَان. Alors que nous savons bien que le mois de Ramadan, on connaît les vertus, les récompenses, mais c'est un mois difficile, c'est un mois qui nécessite beaucoup d'endurance. Il faut se réveiller très tôt le matin pour le suhoor. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire, parfois on travaille en même temps, on est fatigué, il fait chaud, on a mal à la tête, etc. Il faut pas mal de jours avant que l'organisme prenne le rythme du changement des repas. On fait la salat ou tarawih qui est assez long, les 20 rak'at ça prend une heure de temps, une heure de temps 15, et on est parfois fatigué, on doit se réveiller tôt. On sait que le mois de Ramadan est un mois éprouvant physiquement, mais si on savait qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous accorde comme bienfait durant ce mois, alors on aurait été prêt à vivre toute une année de la même façon, avec le même rythme. Tellement Allah Azza wa Jal nous accorde des cadeaux inestimables durant ce mois. Et il y avait un hadith rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, hadith très connu, qu'on raconte à chaque début de Ramadan, l'histoire de ces trois jeunes hommes, de ces trois jeunes personnes qui accomplissaient des bonnes actions et ils se dépassaient mutuellement dans l'accomplissement des bonnes actions. Parmi ces trois amis, il y avait un qui est décédé dans le chemin d'Allah, shahid, dans le chemin d'Allah. Et une année plus tard, ces deux amis sont morts, mais de mort naturelle. Et en rêve, on a vu que celui qui est décédé dans le chemin d'Allah, paradoxalement, on pourrait dire, avait un grade moins élevé que ces deux amis qui sont morts de mort naturelle. Alors on a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que c'est possible? Parce que nous savons tous, celui qui donne sa vie pour Allah, son grade est exceptionnel. Le prophète alayhi salatu wa sallam a donné plusieurs raisons, et parmi les raisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées, c'est le fait que ce jeune homme, que ces deux personnes qui ont vécu une année en plus, ils ont eu un Ramadan en plus. Ils ont pu jeûner 30 jeûnes de Ramadan en plus que leur camarade qui était décédé dans le chemin d'Allah, certes, mais lui il a eu 30 carèmes, 30 jeûnes en moins. Ça nous fait comprendre, les ulama, les muhadithis nous expliquent que jeûner le Ramadan, c'est déjà un présent, un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que depuis des mois à l'avance, on demandait à Allah azza wa jal de nous faire parvenir balighna Ramadan, de nous faire parvenir jusqu'à ce mois. On demandait ce doigt, on souhaitait intensément ce doigt, et Allah exaucé. On est là, on est présent, et alhamdulillah, en bonne santé. En bonne santé, on peut jeûner, on peut rester debout, faire le qiyam. Si on est âgé, on est fatigué, on fait assis, mais on est présent, on jeûne. Et on répond présent parmi tous les musulmans de la Oumma. Parce que vous savez, mes chers frères, petit rappel, ce soir, on parle un petit peu plus longtemps parce que c'est le premier jour. Et à partir de demain, Inch'Allah, comme les autres années, si Allah donne tawfiq, on consacrera 10 minutes à un verset qui a été lu durant la prière de Tarawih. Alors vous savez, le prophète alayhi salatu wa salam nous a annoncé que durant ce mois, qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de bienfaits? Le prophète alayhi salatu wa salam a qualifié ce mois déjà comme étant un mois mubarak. Kataballahu alaykum siyama, Allah vous y a prescrit le jeûne. Et quels sont les bienfaits qui se passent? Quels sont les futuhats, les ouvertures qu'il y a de ce mois? Tuftahu fihi abwabul jinan. Les portes du paradis sont grandes ouvertes durant ce mois. Chose qui ne se passe pas durant les 11 autres mois de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui ont lieu dans le monde de l'invisible. Bien sûr, on ne peut pas voir, on ne peut pas réaliser, on ne peut pas comprendre, mais notre prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé que c'est exceptionnel. Durant ce mois, les portes du paradis restent grandes ouvertes. C'est-à-dire que l'homme intelligent, c'est celui qui sait que la porte est ouverte, il va essayer d'acheter son ticket ou d'avoir son visa, profitant que la porte est grande ouverte, inshallah. Allah maja'alna minhum. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Les portes de l'enfer durant ce mois sont fermées. Ça aussi c'est une grande chance, c'est une grande opportunité. Wa tughallu fihi shayatin. Ça c'est également exceptionnel. Les shayatin sont enchaînés. Iblis, j'allais dire le roi, hein, le pire, hein, c'est pas le roi des shaytans, le pire des diables, le pire des shaytans est enchaîné. Ce qui veut dire que Shaitan ne peut pas nous induire en erreur comme il fait durant les 11 autres mois de l'année. Si durant les 11 autres mois de l'année, il joue avec nous, quand il veut nous mettre en attaque, il nous met en attaque, en défense, l'aile droite, l'aile gauche, il fait de nous ce qu'il veut très souvent. Si on n'a pas la crainte d'Allah dans le cœur et un iman solide, Shaitan joue avec nous. Mais durant ce mois, c'est fini pour lui. Il est enchaîné, mis à pied, suspendu pendant 30 jours ou 29 jours. Ce qui veut dire qu'il n'aura pas d'influence sur Banu Adam, sur l'être humain. Ce qui veut dire que nous serons moins tentés de faire des péchés. Et nous serons moins tentés de faire preuve de paresse face à l'accomplissement des bonnes actions. En temps normal, si on avait dit aux gens de venir à la mosquée jusqu'à 10h, 10h30, ça aurait été dur. On aurait trouvé mille et une excuses. Mais là, Shaitan est enchaîné. Ce qui fait qu'il ne peut pas nous décourager. Il ne peut pas amener toutes sortes d'insufflations de waswasa dans notre esprit que nous, on a besoin d'entrer. Non, il y a devoir à faire, il y a telle chose. Shaitan est emprisonné. Et ça, c'est une opportunité. Le musulman intelligent, c'est celui qui va saisir cette opportunité pour se rapprocher d'Allah. Saisir cette opportunité pour abandonner les péchés. Parce que Shaitan nous a donné l'habitude d'accomplir certaines choses qui ne sont pas bien. Tant qu'il est là, il met dans notre cœur. Vas-y, fais-le. Just do it, c'est pas grave. Mais là, il n'est pas là. Donc, on prend l'habitude de casser ses péchés. On fait en sorte de les démolir. Il a instauré ses péchés dans nos cœurs en nous faisant croire que c'est normal, que c'est tout à fait acceptable à notre époque. Ça, c'est son waswasa. En plus du péché, il met la quiétude dans notre cœur. La satisfaction de notre situation. Quiétude nous fait comprendre que à notre époque, tel péché, c'est pas grave. Il se fut une époque, oui, mais de nos jours, c'est on peut pas s'en sortir, on peut pas faire autrement. Et tranquillité du cœur. Du moment qu'il a instauré le péché de nos cœurs, on n'est plus inquiet. Et ça, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Quand on n'est plus inquiet de faire un péché, ça veut dire qu'il y a absence de taqwa Allah dans notre cœur. On n'a plus peur d'Allah. Si ça ne me dérange pas, à chaque fois, en temps normal, que j'arrivais chez moi ou que j'allais à l'école, par exemple, trouver mes copines au lycée ou à l'université, je faisais la bise, on s'asseyait ensemble, on prenait la main par la main, on marchait. Si ça ne me gênait pas de faire ça, c'est que dès le départ, Shaitan a travaillé mon cœur. Il m'a fait comprendre qu'on vit à une époque où, avec la mixité, on ne peut pas faire autrement. Donc, la première étape, c'était de désacraliser le péché, nous déculpabiliser, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce péché soit incrusté dans nos cœurs et on ne se soucie plus. On a oublié le regard d'Allah sur nous. Mais Shaitan, il est extrêmement malin. C'est un malin Shaitan. Il sait exactement comment nous travailler psychologiquement pour nous faire intégrer, avaler un péché. Mais là, Shaitan dort. Donc le musulman, je ne dis pas qu'il danse, mais le musulman, il avance. D'accord ? On profite pour essayer de revoir un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, on essaie d'y remédier, Inch'Allah, sachant que celui qui nous détourne du droit chemin est absent durant ce mois. Allah Ta'ala, durant ce mois, nous couvre de sa bénédiction. Yurashikumullahu fihi barrahma. Si Allah, le Prophète nous dit que la bénédiction d'Allah, il couvre tout le monde, chaque musulman qui est présent, alors le musulman intelligent, c'est celui qui saura lever les mains pour obtenir un peu de la bénédiction d'Allah. C'est celui qui saura faire un effort, pour se rapprocher d'Allah. Il va se dire que cette année, je vais faire telle chose. Je vais organiser mon temps de la sorte. Arrivé chez lui ce soir, il va faire un emploi du temps. C'est pas qu'il va vivre sur Ramadan comme l'arrivée. Non, c'est qu'il va faire en sorte d'organiser son planning, son temps. Il dit qu'en sortant de la Tarawih, j'arrive chez moi, soit je fais quelques bonnes actions, lire encore un peu de Coran, ou alors je vais me coucher immédiatement. Je ne vais pas perdre mon temps. Dans le mois de Ramadan, on n'a pas le droit de perdre son temps. Donc on se déconnecte de Facebook, de MSN, mais ça c'est déjà dépassé. On ne tweet plus, on ne fait plus rien. on se connecte à Allah. On se connecte à Allah et on évite de perdre du temps. Donc on se couche tôt. On se lève tôt le matin. Badri. C'est pas que je me lève juste 5 minutes avant la fin du Subh al-Sadiq. J'avale une tasse de café, je mange quelques trucs et puis je lis le doua, je commence mon jeûne. Certes, mon jeûne va compter. Le jeûne va compter. Mais est-ce qu'on a profité de la nuit du Ramadan? Vous savez, mes chers frères, c'est pas que les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits qui sont bénies dans le mois de Ramadan. C'est les 30 ou les 29 nuits du Ramadan qui sont bénies. Certes, la dina des cadres, elle est meilleure, mais les 20 premières nuits, il ne faut pas les gaspiller. Chaque minute, chaque seconde du Ramadan est bénie, mes chers frères. Donc, on fait le niya qu'on va s'organiser au mieux. On se couche tôt, ça c'est l'idéal, et on se lève une heure et demie, voire deux heures avant la fin, avant la limite du Subh al-Sadiq, et j'organise mon temps. On me dit que je vais faire... D'abord, on commence doucement, doucement. Si toi, t'es rare, on s'échauffe un peu. Si on n'a pas pu s'échauffer durant le mois de Rajab et Sha'aban, ce qui serait dommage, ben voilà, on arrive en pleine compétition et on commence. Mais on est fait en sorte que bon, la première nuit, on va faire 2 rakats ou 4 rakats de Qiyam ul-Layl, de Tahajjud. D'accord? Et puis on va faire 10 minutes de doua. C'est déjà pas mal pour une première nuit. Et puis de jour en jour, on va essayer d'augmenter le quota jusqu'à ce qu'Inch'Allah, on peut faire les 12 rakats de tahajjud. Ce serait l'idéal. Et de passer beaucoup plus de temps dans les doua. Chers frères, si Allah Ta'ala exauce nos doua, qu'est-ce qu'on veut de plus? Tout le monde a des problèmes. Est-ce que quelqu'un n'a pas de problème ici? Bilal, il a des problèmes, ça se voit. Oussama, Yamin, il n'y a pas un être humain, tout comme on peut dire qu'il n'y a pas un être humain qui peut se dire que moi je suis parfait, je ne fais pas de péché. Ça c'est impossible, il n'existe pas ça. Autrement, il aurait été un prophète. Mais apparemment, il n'y a pas de prophète dans la salle. Pareil, il n'y a pas un être humain qui peut dire que moi je n'ai aucun problème. Ce serait l'homme le plus heureux du monde. Et dans le dunya, on ne peut pas vivre sans problème, c'est impossible. Dans le Jannah, oui, mais dans le dunya, il y a des problèmes. Donc, à qui on s'adresse qu'on a des problèmes? Avant d'aller voir monsieur un tel, le docteur, l'avocat, je ne sais qui, on s'adresse au créateur des cieux et de la terre, au créateur de l'univers, au créateur de l'être humain, celui qui a prédestiné des problèmes et qui a prédestiné, qui nous a donné les solutions et qui nous a bien fait comprendre que « Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in ». Ça veut dire quoi « Iyaka nasta'in » ? C'est-à-dire qu'on cherche refuge auprès d'Allah. N'importe quel problème, on cherche secours, al-isti'ana, c'est auprès d'Allah. Chercher l'aide auprès d'Allah. C'était comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait les choses et il a enseigné les sahaba à vivre dans ce dunya. Donc, les nuits, on essaie de les consacrer, on se repose bien sûr, et puis on passe un maximum de temps dans les tahajjud qiyam ul-layl, et dans les doigts. Et puis je m'organise également. Par exemple, je me dis que voilà, j'ai déjà fait 30 minutes de qiyam ul-layl, 15 minutes de doigts. Maintenant, je vais prendre mon petit déjeuner, c'est-à-dire le suhoor. Et là aussi, il faut donner de l'importance au suhoor. Ça, si on a le temps aujourd'hui ou bien demain, on expliquera. Et ensuite, quand le suhoor est terminé, ça c'est un exemple, hein, ça c'est une proposition d'emploi du temps. Je vais pas dormir jusqu'à Fajr. Non, ça c'est un piège. Il y a des fois, quelqu'un dit, j'ai fini mon suhoor tôt, mais allonge 5 minutes. Quand il lève les yeux, il voit soleil dehors. Ya akhi, je t'ai réveillé, tu as fait tahajjud et tu n'as pas fait fajr. C'est comme si un joueur qui va sur un final de Ligue des Champions, il s'échauffe, il s'étire, et puis il va dans le vestiaire, il gagne sommeil. Et quand il se réveille, ses amis, ils ont déjà eu la coupe, ils sont sortis, et il est resté là dans le vestiaire avant de dormir. Une image, hein. Bref, c'est-à-dire qu'après le qiyam, après le déjeuner, le petit déjeuner, le suhoor, il reste un peu de temps, d'accord? Idéalement, on vient à la masjid. La masjid, c'est la maison d'Allah. C'est un endroit où il y a des malaïka. On ne peut pas être d'un endroit meilleur qu'une mosquée. Donc on vient à la masjid et là, on essaie de lire un juz. C'est-à-dire un sipar. Parce que c'est le mois du Coran aussi. Toute l'année, c'est l'année du Coran. Mais c'est le mois où on donne plus de droits encore au Coran. On va faire en sorte de lire un maximum de Coran. Donc il faut dégager du temps. Mes chers frères, si on ne dégage pas du temps, on ne trouvera pas le temps. Parce que vous savez, on vit à une époque où il n'y a plus de bénédiction de le temps. Jusqu'à la fin des temps, ça c'est irrémédiable ça. Il y aura moins en moins de bénédiction. Le temps, on passe vite, des années, les jours s'enchaînent. Là on est en train de discuter là, le premier Ramadan. Donc vous clignez les yeux, on est en train de parler de la dernière des quatre bientôt. Ça va passer tellement vite. Donc C'est à nous de nous programmer et de demander à Allah de mettre la baraka, la bénédiction dans notre temps. Donc, après le repas du suhur, je viens à la mosquée, pour les messieurs et pour les dames, elle va dans l'endroit où elle fait la salat, sur son sajjala, son musalla, et on peut lire un juz. Il faut 20 minutes pour lire un juz, ou 25 minutes, en s'appliquant avec les règles de tajwid, en respectant toutes les règles, d'accord ? Et jusqu'à ce que l'imam arrive, il commence en salat al-fajr. Je fais la fajr en jamaat, et après la salat al-fajr, je ne cours pas chez moi pour dormir. Non. Je reste, je lis un autre juz jusqu'au lever du soleil. Et quelques instants après le lever du soleil, je fais mon shuruq. La salat al-ishraq, 2 rakat ou 4 rakat, sachant quelles sont les récompenses qu'Allah accorde aux musulmans lorsqu'il fait 2 ou alors certaines versions 4 rakat après le lever du soleil. Si toute l'année je n'ai pas l'occasion de le faire ou je n'ai pas la motivation de le faire, ben je me bouge là. J'essaie de me motiver, je me dis que non, je vais respecter cet emploi du temps, je vais tenir ferme là-dessus. Et après le shuruq, alhamdulillah, on fait un peu de doigt et puis on peut partir vaquer à ses occupations. On travaille à l'université ou au lycée, quel que soit. Et puis on fait en sorte que pour chaque salat, on essaie d'être présent à la mosquée à l'avance. Si le salat au dhuhr est à 13h, je viens à 12h30, 12h40. C'est comme on ne mange pas à la maison. On ne mange pas. À midi, ben, on essaie de venir plutôt à la mosquée. À moins qu'on est fatigué, mais il ne faut pas se dire que je suis fatigué. Il y a des fois, psychologiquement, je me dis que c'est Ramadan, donc je suis fatigué. Alors que je suis en forme. Mais c'est que j'ai intégré le fait que, logiquement, je dois être fatigué, donc je vais me reposer. Laissez le repos pour les anciens. Si on sent qu'on est en bonne santé, on est bien, on vient à la masjid, on essaie de lire au maximum le Coran. Un juz avant la salat al-dhahr et un juz un sipara après la salat al-dhahr. Si on le fait, ça nous fait déjà combien de sipara là ? Combien de juz ? Ça fait déjà 3. Pour la salat al-asr, pareil, sauf ceux qui travaillent, mais on essaie, dans la mesure du possible, si quelqu'un peut faire un juz de 20 minutes avant la salat et après chaque salat, excepté salat al-isha, ben, il peut faire facilement, allez, on va dire au minimum 5 juz par jour, 5 sipara. Ce qui fait qu'il pourra faire un khatm al-Quran en 6 jours. Allez, on va dire qu'il y a des fois on est un peu fatigué, en une semaine. C'est déjà pas mal, non ? On peut s'assurer 4 khatm al-Quran dans le mois de Ramadan. Alors qu'il y a des gens qui peinent pour faire un khatm al-Quran parfois. Quand il arrive le 28e, il a encore 10 sipara en retard, là il sprint, il saute des lignes, tout ça pour arriver. Alors que si on s'organise, on a la possibilité de lire au maximum le Coran. On continue le hadith qu'on a cité tout à l'heure. وَيَغْفِرُ فِيهِ الْخَطَايَا. Et durant ce mois, Allah Ta'ala pardonne les péchés. Et là aussi, qui c'est qui parmi nous peut se vanter de ne pas avoir de péché dans ce livre de compte ? Personne. Personne. Que ce soit quelqu'un qui s'est converti à l'islam il y a une semaine, ou quelqu'un qui est né dans l'islam, ou quelqu'un qui est hafiz al Coran, qui est alim, qui est mufti, qui est fundi, il peut être comme il veut. Tant qu'il n'est pas prophète, il fait des péchés. Tant qu'on n'est pas prophète, on accomplit des péchés, quel que soit notre niveau de science religieuse, de spiritualité, on est des êtres humains, on reste des hommes. Et donc on a nos faiblesses, mais ce mois-là, Allah pardonne les péchés. C'est le moment de demander à Allah Tawbah et de demander à Allah de nous donner la possibilité de ne plus retourner vers les mêmes erreurs. Parce qu'en général, si on analyse bien notre vie, chaque individu en général accomplit les mêmes péchés. On a tous nos points faibles. En général, nos péchés restent dans un certain registre. Il y a des gens qui ont plus de tentations, je ne sais pas, par rapport à la nourriture. Il ne fait pas attention, il mange n'importe où, etc. Mais il essaie de corriger ça. Il y a des gens qui ont des faiblesses par rapport aux relations extra-conjugales. On va dire le zina, etc., sortir avec des filles, etc., etc. Il essaie de trouver une solution à ça. Il y a des gens qui ont des problèmes avec l'argent. Il ne peut pas s'empêcher de... pratique illicite, intérêt ou autre chose, et il essaie de trouver une solution. Il y a des gens qui ont un blocage par rapport aux relations avec les personnes, avec les parents, ou le problème de respect envers le papa, la maman, c'est des choses qui reviennent. Il essaie de trouver une solution à ça. Donc chacun, comme un médecin, il essaie de trouver, de diagnostiquer quelles sont les barrières entre moi et Allah. Quels sont les péchés que je fais qui m'éloignent d'Allah, qui m'empêchent de me rapprocher d'Allah, et c'est le moment de demander « Oh Allah, tawbah !» Pardon pour ses péchés et oh Allah, donne-moi tawfiq de ne plus recommencer. Et durant ce mois, les doigts sont acceptés, comme on a dit tout à l'heure, c'est le moment. Et le prophète m'a donné une bonne nouvelle, un encouragement. Allez-y, mes chers musulmans, faites le maximum. En ce sens, faites le maximum de bonnes actions durant ce mois. Et en plus, le prophète m'a dit que durant ce mois, Allah est tellement fier de nous qu'il regarde comment les musulmans ils se dépassent mutuellement dans les bonnes actions et ils nous vantent auprès des malaïkas. Allah Ta'ala vante le mu'min auprès des anges. Parce que les anges, ils ne savent pas c'est quoi faire un péché. Le musulman, l'être humain, il sait bien c'est quoi faire un péché, mais durant ce mois, il ne va pas le faire. Un ange, est-ce qu'il a besoin de manger, boire? Est-ce qu'un ange a faim? Est-ce qu'un ange dit que tel ange, un jour, il avait faim, il a pris un KitKat et il a mangé? Ça n'existe pas. Est-ce qu'un ange a soif, il a bu un coca et puis... Non. Un ange, il ne mange pas, il ne boit pas. Un ange ne se marie pas. C'est-à-dire, un ange, il était créé pour adorer Allah. La ya'asuna Allah amarahum. Jamais il ne désobéit Allah. Il fait que ce qu'Allah lui a ordonné de faire. Il ne sait pas c'est quoi un péché. Tandis que nous, êtres humains, on a des besoins. On a des faiblesses. On a des shahawats, on a des passions. Ce qui fait que nous péchons parfois. Et quand on peut contrôler tout ça pour Allah, ça s'appelle quoi ça? Al-istislamu lillah. Ça s'appelle quoi ça? Taqwa Allah. Crainte d'Allah, soumission à Allah. Quand j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de manger, j'ai faim. Mais non, je ne mange pas parce que je suis en état de jeûne. C'est pas juste que Fundila Djanou ne mange pas quand on est en état de carême, on a appris ça, tout le monde sait. Non! Parce que si je ne mange pas, c'est qu'Allah m'a dit, musulman, ne mange pas durant le ramadan jusqu'au soir. Ça, c'est istislam lillah. Je suis soumis à Allah. Allah m'a dit, fais pas ça, je fais pas. Allah m'a dit, ne bois pas, je ne bois pas. Allah m'a dit, ne fais pas telle chose, je m'abstiens parce que je suis un musulman. Le musulman, c'est celui qui est islam, qui s'est soumis à Allah. Mais ça, il faut qu'on l'intègre. Ça, c'est un entraînement practice, comme on dit en anglais. C'est un entraînement pour nous, pour toute l'année. Qu'à chaque fois qu'il y a un interdit, je me dis que je m'abstiens. Pourquoi? Parce qu'Allah me l'interdit. Donc ça, ce sont des valeurs à intégrer. Et le prophète sallam, après avoir encouragé dans un hadith, il met en garde. Attention! Attention. On a cité plein de vertus, mais faites gaffe. فَإِنَّ الشَّقِي كُلَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ فِي رَحْمَةُ اللَّهِ. Le plus malheureux des hommes, c'est celui qui durant ce mois est privé de la rahmat d'Allah. Alors que la rahmat descend pour tous les jeûneurs. Mais celui qui est privé, c'est en fait quelqu'un qui se prive lui-même. Il y a quelqu'un qui n'a fait aucun effort. Il n'a pas essayé d'avancer. Il n'a pas essayé de progresser de ce mois en accomplissant plus de bonnes actions. Et il n'a pas essayé de s'éloigner des péchés. Alors là, c'est grave. Le prophète a qualifié cette personne comme étant le plus malheureux. L'homme qui se prive lui-même de la bénédiction d'Allah à un moment où la bénédiction descend sur toute la Ummah. Donc, on comprend que vivre le ramadan, c'est un bienfait, c'est un ni'ma, oui. Mais ensuite, il y a un travail à faire, il y a un effort à fournir. Et l'effort, c'est propre à chaque individu, à chaque musulman. Le premier effort, c'est de jeûner, bien sûr. Mais en plus de se fixer des objectifs, qu'est-ce que je vais faire de bien? Et quelles sont les mauvaises choses que je fais régulièrement, que je vais arrêter? Donc, faire le maximum de bonnes actions, entre autres le jeûne, la lecture du Coran, la sadaqa, donner à manger aux gens, maximum de doigts, éviter les péchés, éviter de perdre du temps, éviter les paroles futiles. On ne veut pas voir les gens après la salat, hein, dans beaucoup de masjids c'est comme ça. Les gens s'assoient, ils parlent, blablabla, ils racontent des histoires, il faut éviter ça. Le temps est précieux, le temps est compté, le jour de la résurrection, les gens ils vont rechercher un tasbih, un sijda, un subhanallah. Et dans ce mois de ramadan, chaque Zikrullah est multiplié selon certaines versions par mille. Chaque action est décuplée. Alors imaginez le musulman qui a perdu son temps durant le mois de Ramadan. Même dans les embouteillages, même dans le bus, même quand vous faites la queue au supermarché, faites le Zikrullah. Faites le Zikrullah, ne perdez pas une seconde de ce mois de Ramadan, parce que le jour des comptes, on verra comment Allah Azza wa Jal a donné des récompenses pour le jeûneur. Et le Ramadan, il est exceptionnel, parce que c'est le seul ibadah pour lequel on n'a aucune indication sur la récompense. Si vous demandez, ben, Fundi ou ben Mana, dites-moi quelles sont les récompenses du jeûne, je vous dis que je ne sais pas. On ne sait pas. Parce qu'Allah Ta'ala dit, fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Il a dit que le jeûne, ça c'est pour moi ça. Et c'est moi qui en rétribue. C'est-à-dire que c'est tellement exceptionnel que Allah nous a donné aucune indication. La seule chose qu'il nous a donné comme indice, c'est quoi? Sachez qu'il y a une porte dans le paradis pour les jeûneurs. Ar-Rayyan. Et ça, c'est extraordinaire. Que le jeûneur qui s'applique, il y a une porte spécifique pour lui dans le paradis. Mais mis à part ça, on ne connaît rien, parce qu'Allah a dit que c'est moi qui récompense personnellement. Et si Allah il s'engage, subhanallah, avec sa splendeur et sa majestuosité de rétribuer directement chaque jeûneur, c'est que vraiment la récompense, elle est exceptionnelle. Également, durant ce mois, on a dit faire de bonnes actions, éviter les péchés, faire preuve de patience, sabr. On ne veut pas entendre que ah, Mina Karim est fatigué, sous le pas moi. C'est pas la bonne réaction. Ou alors, si on travaille, si on est chef d'entreprise, on va tirer le nez sur nos employés. On a des personnes qui disent, ok, patron, dans Ramadan, là, il est mauvais, là. C'est pas ça la réaction du mu'min. Quand on est en état de jeûne, bien au contraire, c'est le mois de la patience. Faire preuve de patience quand on a faim, quand on a soif, quand on est fatigué. Et également, et là, il y a un travail énorme à faire sur soi. Le prophète m'a dit que quand on est en état de jeûne, si quelqu'un vous insulte, si quelqu'un vous agresse verbalement, si quelqu'un vous bouscule, vous provoque, faut pas répondre. Faut pas faire le coq, là. Dit que quoi fait là, un problème, nous règle ça, trousse la manche, tout de suite. Non. Si quelqu'un vous insulte, vous provoque, falyakul inni sa'im. Que la personne dise juste que je suis en état de jeûne. Khalas, dis ce que tu veux, les paroles que tu peux dire, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne réponds pas. Je ne réplique pas, pourquoi? Parce que là, je suis en état de jeûne. Mon cœur est apaisé. Je suis en train de développer une relation spéciale avec Allah, donc je ne réponds pas aux provocations. C'est un mois où dans le comportement également il doit y avoir un changement. C'est pas uniquement dans notre relation avec le manger, le boire, etc. Non, c'est dans notre comportement de la vie de tous les jours également. Il faut qu'on perçoive un changement. Et vous savez, chaque changement là, ça doit s'installer dans la durée. On fait des efforts, mais avec le lien de continuer ces efforts, Inch'Allah, durant toute l'année. Et puis, par la suite des autres jours, on va parler des versets du Coran, et de temps en temps, on va parler de certains points de Ramadan. N'oublions pas, dès demain, le suhoor, mes chers frères. Il ne faut pas que quelqu'un se dise que moi, je mange bien le soir, et le matin, je ne me lève pas, je me lève juste pour Fajr, je fais le niyam le soir. Non, le suhoor, c'est quelque chose qui a été donné spécialement à cette communauté. Les autres communautés ont eu certes le Ramadan, le jeûne, mais le suhoor, c'est quelque chose qui distingue les musulmans. Le prophète m'a dit que faites le suhoor, ne serait-ce avec une date. Si on n'a pas de date, mangez un morceau de pain ou je ne sais pas, un biscuit, n'importe quoi. Mais faire le suhoor, c'est une sunna. Et faire le suhoor, uniquement en mangeant pour le suhoor, le prophète m'a dit que les anges, ils font des doigts pour nous. Les anges cherchent les personnes qui sont réveillées à cette heure-ci, pas pour faire qiyamoulay, ça il y a d'autres groupes d'anges, pour manger. Celui qui est en train de manger à ce moment-là, il est en train de mettre en pratique cette sunna, les anges font doigt pour cette personne. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Comment Allah est généreux, il est clément? Je me lève pour manger mon petit déjeuner, prendre mon petit déjeuner, les anges font doigt pour moi. Parce que je suis en train de mettre en pratique une sunna, qui est spécifique à cette communauté. Également, donnons de l'importance au iftar. On préfère le dire tout de suite parce que demain ça commence. Et il ne faut pas perdre un jour. Au moment de rompre le jeûne. Vous savez que le prophète m'a dit que lorsqu'un jeûneur casse son carême, rompe son jeûne, il y a un doigt au moins, il y a un doigt au moins da'awatun maturad. Un doigt qui est accepté au moins. Parmi tous les doigts qu'on va demander, il y aura au moins un qui sera accepté par Allah Azza wa Jalla. Donc, au moment de rompre le jeûne, ce n'est pas un moment où on parle, on discute, on ne perd pas de temps. Ce sont des moments précieux. On fait le maximum de doigts avec conviction qu'il y aura au moins un doigt qui sera accepté par Allah. La salat al-tarawih, dernier point, on essaie de rester présent jusqu'à la fin. Le prophète m'a dit que celui qui fait la salat al-tarawih, d'ailleurs le imam, hatta yansarif, jusqu'à ce qu'il ait terminé, Allah Ta'ala lui accorde la nuit passée en ibad. Ça, c'est un cadeau unique de la part d'Allah. Quelqu'un qui reste, qui fait preuve de patience, c'est sûr que ce n'est pas facile les premiers jours. Les premiers jours, au troisième, quatrième rakat, mollet commence à tirer, il y a des crampes, parce qu'on n'est pas de grands sportifs, et on n'est pas non plus des grands adorateurs d'Allah. On n'est pas comme les sahabas qui passaient des nuits dans l'adoration. C'est peut-être, pour nous, c'est le seul moment de l'année où on passe au moins une heure de temps debout dans une salat. Donc c'est dur. On voit les gens commencent à tirailler, commencent à bouger, commencent à échauffer, etc., etc. On a des crampes, mais ça, il y a des récompenses dedans. Parce que là, on est en train d'éduquer notre nafs. Non, on reste au feu de namaz. On ne bouge pas. Parce que le nafs, il a envie de s'échapper, lui. Quand il fait des bonnes actions, il m'a dit, arrête, allons filer. Non, on éduque. Et on apprend que quand on est devant Allah, on reste devant Allah. Ça, c'est une éducation spirituelle également, pour que le corps et le nafs s'habituent à rester debout, à faire l'adoration d'Allah. Et deux gestes, on va terminer avec ça. Chaque musulman doit faire un listing où il écrit, tous les ans on dit ça, quelles sont mes erreurs qui reviennent tout le temps. Et il sait trouver une solution. Et un autre listing, quels sont mes objectifs pour ce mois. Qu'est-ce que je vais essayer de faire en plus? Qu'est-ce que je vais faire pour que le Ramadan 1433-2012 soit meilleur que le Ramadan 2011-1432 et meilleur que celui d'avant et ainsi de suite. Parce qu'on a besoin de progresser. Quand on a une entreprise, on fait en sorte que d'année en année, on avance, le chiffre d'affaires augmente, que les choses aillent mieux, d'accord? Mais dans le dîn, on a besoin d'augmenter, on a besoin d'avancer, de se rapprocher du Jannah. Donc d'année en année, on se fixe des objectifs. Je vais travailler quoi? Si mon, comme on a dit tout à l'heure, si mon problème, mon unique problème, je suis un bon musulman, il n'y a aucun problème, je ne fais pas de péché, mais j'ai un problème avec mes parents. Il y a un problème relationnel énorme avec ma maman ou mon papa. Depuis que je me suis marié, hein, ce n'est pas des exemples, ce n'est pas la vie d'une personne que je raconte, hein, mais c'est la vie de beaucoup de personnes. Depuis que je me suis marié, j'ai des embrouilles permanentes avec mes parents. Donc, madame, il crée, etc. Donc, j'ai plus de relations correctes, islamiquement parlant, avec mes parents, comme je devais avoir. Et je fais en sorte que durant ce mois, je vais remédier à ça. C'est-à-dire, chaque personne essaie de se fixer un ou deux objectifs. Et enfin, il y a des gens qui se présentent dans ce mois de Ramadan. Ils commencent le mois de Ramadan avec des montagnes de péchés. Il y a des gens qui viennent durant ce mois avec des montagnes de péchés. Ils traînent des fardeaux de péchés depuis un an. Ils ont fait des erreurs, beaucoup de péchés. Et lorsque le mois arrive, ils voient les gens, ils sont heureux, ils sont contents, ils envoient des textos, ils se félicitent, Ramadan Mubarak. Et il y a ces personnes-là, ils se demandent si est-ce que j'ai le droit d'espérer quelque chose. Je suis parti tellement loin de mes erreurs que est-ce qu'Allah Ta'ala va m'accepter? Est-ce que j'ai encore le droit de demander quelque chose à Allah ou alors je dois avoir honte et baisser la tête? Alors que les personnes qui ont cette appréhension et qui sont, et déjà le fait qu'ils se sentent responsables de ce qu'il a pu faire, c'est déjà un bon signe. Et qu'ils se disent que autant nous, êtres humains, nous sommes faibles, autant nous sommes pécheurs, mais autant Allah Azza wa Jalla, notre Seigneur, il est généreux. Notre Seigneur, il est miséricordieux. Allah Ta'ala aime pardonner. Allah Ta'ala crée l'homme, il sait les faiblesses. Allah Ta'ala crée Shaitan pour éprouver l'homme. Allah Ta'ala crée An-Nafs, Amaratun Bissou, l'ego dans le cœur de l'homme qui le pousse à faire des péchés. Et Allah sait pertinemment quel est l'effet du Nafs sur l'homme et l'effet de Shaitan sur l'homme. Allah, il sait pertinemment que les êtres humains font des erreurs. Et Allah Ta'ala nous a promis que celui qui vient vers lui, même s'il a autant de péchés qu'il y a d'écume dans les mers, ou de gouttes de pluie, ou de grains de sable dans le désert, s'il vient auprès d'Allah avec un cœur pur, Allah Ta'ala est capable de tout pardonner. Donc ce mois-là, c'est pour tout le monde. C'est pas le mois des pieux, c'est le mois de tous les musulmans, tous ceux qui ont la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans leur cœur, qu'il soit un homme pieux ou qu'il soit un pécheur endurci, c'est le mois de tout le monde. Chacun peut se rapprocher d'Allah. Chacun doit avoir l'espoir qu'Allah va pardonner. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah est capable de pardonner n'importe quel péché, autant d'erreurs qu'on a pu faire, à condition qu'on soit sincère. Et je commence cette exhortation par moi-même, celui qui parle. Moi-même, si j'ai fait des erreurs, je fais le nia. Et nous tous, nous faisons le nia que dès ce soir, on se réveille et on va demander pardon à Allah et on va cibler nos péchés. On va dire, oh Allah, j'ai fait telle erreur, j'ai fait tel péché, pardonne-moi telle erreur, tel péché, et oh Allah, donnez-moi la force de ne pas le faire durant ce mois. Donnez-moi la force de ne pas tomber de ce péché durant ces 30 jours et donnez-moi la force de ne plus jamais le faire. Allah nous accepte, mes chers frères. Nous vous souhaitons tous un Ramadan béni, beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions de la part d'Allah Azza wa Jal. Que chaque minute nous soit profitable, chaque minute de ce Ramadan nous rapproche d'Allah, nous rapproche du paradis et nous éloigne de l'enfer. Et faites passer le message également à nos mères et à nos soeurs qui sont à la maison. Faites en sorte qu'elles aussi, elles font le Qiyamul Layl, le Tahajjud comme nous. Elles aussi, elles font la Salat au Tarawih comme nous. Et elle s'applique au mieux pour se rapprocher d'Allah durant ce moment exceptionnel. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.